20h30 sur la grenouille qui est en direct pour la troisième et dernière fois en partenariat avec Marseille Hebdo et les forums de la FNAC au parc Henri Fabre, le lieu central du festival de Marseille, 12e édition, où ce soir sont présentés un spectacle est en cours, Porkin Loop de Trash, et où à 22h sera proposé Connecting Soul de Franck Delouise. On va parler ce soir pendant une bonne heure de danse virtuelle et de corps limite. Alors mes invités sont, je dis bonsoir d'abord à Gilles Roff de Marseille.
Bonsoir,
bonsoir Gilles. Nos invités sont Franck Delouise, donc chorégraphe qui présente Connecting Soul dans un peu plus d'une heure et qui l'année dernière avait présenté dans le cadre du Festival de Marseille First Connection. Norbert Corsino qui avec Nicole Corsino forme le couple N plus N Corsino et qui présente à l'espace Villeneuve-Bargemont ce nouvel espace tout près de l'hôtel de ville l'exposition multimédia Seul avec Lou. Également avec nous deux des protagonistes de Sensor Lab qui sont Michel Ricosi et Jean-Marc Montera. Donc finalement un plateau sur les arts numériques, et la danse et les arts numériques très marseillais. Alors Franck, tu vas pas rester très longtemps avec nous parce que la représentation de tout à l'heure va solliciter ta présence assez vite. Connecting Soul a été créé à Mantes-la-Ville en automne 2006, ça a beaucoup tourné depuis ?
Oui, on a fait quand même pas mal de dates, de souvenirs comme ça, je dirais une 25 dates peut-être. Enfin, je vais me faire tirer les oreilles par mon administratrice si elle écoute. Effectivement, on a pas mal tourné cette pièce parce que ça suscite beaucoup d'intérêt, de par sa démarche singulière.
C'est l'aboutissement d'une démarche singulière après Drop It en 2000. C'est à peu près à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui t'a amené à te lancer dans cette démarche et les différentes étapes qui t'ont amené jusqu'à la création à l'automne dernier de Connecting Soul?
C'est un processus naturel en fait. Si tu veux, j'ai pour habitude de chorégraphier, de composer la musique et ça se fait toujours en deux temps. C'est-à-dire que d'un côté, je compose la musique et de l'autre, la chorégraphie. Et j'essaye de faire fusionner les deux, comme ça, par rebond, par aller-retour. Et je cherchais un outil qui me permette d'être le chorégraphe et le compositeur au même instant, et que les danseurs deviennent des musiciens. De façon à ce que, d'inverser le processus habituel, de ne pas danser sur la musique, mais que le corps soit à l'origine de la naissance du son sur lequel le danseur a besoin pour danser. Tu vois, c'est un peu le processus de l'œuf et la poule, quoi. C'est qui a commencé le premier.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que la... Je te coupe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que la musique change à chaque fois? Que suivant le mouvement du danseur, il peut y avoir des petites différences spectacle après spectacle? Comment ça se déroule?
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'émotion particulière que procure la naissance du son au même instant que le mouvement. Et surtout... Après il y a une histoire de tempo, une histoire de à quel moment et de quelle façon, avec quelle dynamique les danseurs vivent le spectacle. Le spectacle est écrit, mais c'est jamais le même parce que les danseurs ne sont pas toujours dans le même état pour différentes raisons, à savoir le lieu, le public, leur état de fatigue.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, on est vraiment face à du spectacle vivant. Alors spectacle, forcément c'est vivant. J'aime bien ce mot d'ailleurs, spectacle vivant. Pourquoi on rajoute
spectacle
le vivant?
Mort.
Mais ouais. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans une articulation entre le mouvement et la musique qui naissent en même temps, quoi. Et c'est jamais, même si c'est écrit, c'est comme un concert, quoi.
Il n'y a aucune musique diffusée en dehors de celle qui est produite par les danseurs.
Il y a quand même des parties de musique qui sont déclenchées, qui servent des fois d'accompagnement sur lesquels vont comme chorusser les danseurs en quelque sorte, hein. Et parce qu'on a besoin à un moment donné d'orchestration, parce que dans mes rêves les plus fous, j'avais imaginé une pièce avec 10 danseurs connectés, de façon à ce qu'on ait 10 musiciens, un orchestre en quelque sorte, et pouvoir comme ça dispatcher la partition de chacun. Donc, pour rendre aussi la chose un peu plus orchestrée, il y a des partitions qui sont déclenchées via des capteurs au sol, hein, on le voit bien, pendant le spectacle, sur lesquels vont jouer des danseurs.
C'est une démarche de longue haleine, de 2000 à 2006.
Oui, disons que c'est un rêve qui était dans ma tête depuis longtemps, mais entre rêve et réalité, c'est ce qui est le plus difficile quand on est artiste, c'est de réaliser hein, ce qu'on a dans la tronche. Et j'ai commencé évidemment chez moi avec des capteurs venus de l'industrie automobile, enfin de tout ce qu'on peut récupérer et tout ça, et puis de savoir qu'il y a des boîtes qui fabriquent des capteurs, qui les vendent et tout ça, et puis après il fallait que je trouve des développeurs parce que il y a la partie hard, mais il y a aussi le soft, c'est-à-dire software,
les logiciels
qui permettent justement de pouvoir formater, enfin de pouvoir mettre en place toute
en relation les capteurs et la musique que vous souhaitez.
C'est ça, toute l'arborescence nécessaire à ça. Et il a fallu que je m'entoure de gens compétents, des gens qui ne sont pas forcément formés à ça, mais des gens avec l'intelligence nécessaire justement, et j'en ai trouvé. J'ai trouvé des bons collaborateurs qui ont pu répondre un peu à mes rêves.
À l'IRCAM, je crois.
Alors, ouais, disons que j'ai travaillé avec des gens qui ont bossé à un moment donné à l'IRCAM. Mais pour ce projet Connecting Soul, j'ai surtout travaillé avec un gars qui s'appelle Fabrice Moinet, qui est aussi bien la personne qui a développé la partie informatique, mais aussi la partie technique des capteurs, c'est-à-dire la partie physique, comment intégrer les capteurs, de quelle manière les protéger, parce qu'il y a plein de problèmes qui se posent, il y a le problème des chocs, les problèmes des accélérations fortes du corps en mouvement, c'est de la danse hip-hop, donc on est vraiment dans une relation très physique avec le capteur. Il y a la sueur, les vapeurs de sueur qui, à force dans les connectiques, bouffent les composants, bouffent toutes les connectiques. Au début, on passait plus de temps à ressouder les choses, à répondre aux bugs. Et puis, par exemple, dans une journée de travail de 8 heures à 10 heures de travail, on dansait 30 minutes.
Et financièrement, ça posait des problèmes aussi, ça, tous ces, ces matériaux.
J'ai vendu mon père, ma mère,
les danseurs.
Non, c'est aussi un problème, c'est-à-dire que sur l'aspect financier, c'est pas que le matériel, mais c'est aussi la présence, les personnes qui travaillent autour de ce projet. C'est beaucoup de temps de présence et c'est des compétences qu'il faut payer, donc forcément, c'est de l'argent. Voilà, c'est un projet long et j'en suis vraiment qu'au début. Disons que là, j'ai mis en forme un spectacle d'une heure avec quatre danseurs. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas forcément le développement technologique, mais c'est aussi la formation des danseurs, parce que je leur demande d'être musiciens, de comprendre un peu le processus et ce que ça amène dans la danse, ce que ça peut amener dans la danse. C'est vraiment une démarche très particulière, très nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une révolution d'approche de la danse.
Alors, peut-être pour en rappel très vite que tu viens du hip-hop, pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes, Franck Delouise, c'est celui qui faisait l'émission HIPHOP avec Sydney et qui après a fondé les Paris City Breakers. Donc, une longue histoire. Et là, tu disais que c'était de la danse hip-hop. Tu es allé chercher des danseurs hip-hop pour cette...
Oui, ce sont des danseurs hip-hop avec une sensibilité particulière parce que justement, de toute façon, tout le monde n'a pas envie de travailler avec ce truc-là, tout le monde n'a pas envie de se foutre un costume sur le corps, tout le monde n'a pas envie...
Ça a été quoi leur réaction quand tu leur as présenté le projet ?
Ça s'est fait en deux temps puisque j'avais d'abord fait First Connection avec trois autres danseurs. Donc c'est une fois que c'est créé, une fois que ça existe, eh bien les gens ils ont un regard extérieur. Donc ils voient qu'il y a des choses possibles. Lorsqu'on est acteur, on voit la chose différemment, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le vide, un peu dans l'inconnu, un peu en première ligne, ça fait peur. Donc ayant fait d'abord First Connection, ceux qui sont venus à l'audition ont déjà eu écho de cette première pièce, ont vu ce que ça pouvait donner et ça a suscité l'intérêt. Donc j'ai trouvé en face de moi des danseurs qui étaient très curieux d'approcher ce procédé. Et j'ai fait une grande audition qui a duré longtemps parce que c'est pas évident de trouver des danseurs avec une bonne technique de danse, j'en ai vu plein, mais après ça se situe je dirais dans la structure mentale, c'est-à-dire d'avoir la capacité de comprendre ce processus spécifique, c'est-à-dire de jouer la musique dont ils ont besoin pour danser et de pas danser sur de la musique qui existe à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose de très spécial.
C'est un effort double en plus, non ?
On leur demande
beaucoup là.
Mais ils sont à poil en quelque sorte, puisque ils peuvent pas se cacher derrière la musique là. S'ils bougent pas tempo comme on dit, la musique n'est pas tempo.
Mais quoi ? J'ai peut-être loupé un épisode tout à l'heure, mais comment ça marche concrètement? Quand ils actionnent des capteurs et ça déclenche des séquences musicales qui sont pré-écrites, ou ça déclenche des instruments qui...
Ouais. Alors j'ai essayé de pousser le bouchon un peu loin. C'est-à-dire que d'abord il y a différents capteurs. J'utilise des capteurs de pression au pied qui sont sous la semelle. Donc à chaque pas, on peut déclencher quelque chose. J'ai des capteurs d'accélération qui prennent l'accélération, par exemple, placée sur le poignet en trois dimensions. Des capteurs de flexion qui sont placés sur le coude. Lorsque je plie le bras ou je tends le bras, je donne une action. Hein. Donc tout ça, ce sont des valeurs numériques qui sont transmises à l'ordinateur. Et avec le développement d'un soft, on assigne chaque... signal, chaque mouvement a un son, a une déformation du son, et voilà. Donc ça c'est le procédé, et comme on peut déclencher ce qu'on veut, il y a des fois des déclenchements de boucles, de samples, de petites boucles d'une seconde, enfin d'une mesure ou deux mesures, et qu'à chaque fois que je, par exemple, tape du pied, je réinitialise je reviens au début de la boucle, de la lecture du son. Et avec ça, par exemple, je peux faire comme avec le sampling, comme avec la composition de musique. On peut faire avec des effets de loop, on peut composer des rythmes, par exemple. Mais on peut aussi bien jouer des mélodies, qu'à chaque pas, par exemple, je déclenche une note de musique, hein, par exemple un son de piano. Et puis, avec la pliure du bras droit, je vais jouer une gamme de notes que j'ai prédéfinie, par exemple, hein, sur une octave ou deux octaves. Et puis, à chaque fois que je plie le bras, eh bien, je peux jouer différentes notes. Hein. Donc, du coup, le corps devient vraiment un instrument de musique. Je peux couper le son aussi avec des interrupteurs qui sont sur le bout des doigts. Je peux lire à l'envers le son. Je peux ouvrir des réverbes, des delays, enfin, tout ce qu'on veut.
Et est-ce qu'il y a une part laissée à l'improvisation du danseur au niveau musical?
Oui, disons que ma volonté, ce serait vraiment de laisser des grandes parts d'improvisation. Mais pour ça, il faut... Il faut apprendre à jouer de son propre corps, apprendre à jouer d'un instrument qui est son corps, c'est faire du son avec son corps. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et donc ça, on ne peut pas demander à un danseur, avec 5 mois de création en tout, à savoir sur ces 5 mois, il y a eu 3 mois de formation, en quelque sorte, d'utilisation des capteurs, je ne peux pas lui demander d'improviser totalement. On n'apprend pas d'un instrument en 3 mois.
Les costumes sont très contraignants pour les danseurs ?
Ils le sont plus maintenant. Ils l'ont été au départ avec First Connection, ces espèces de grenouillères qu'on enfilait, on mettait une heure pour les mettre, et puis après il fallait calibrer, c'était très fastidieux, et puis c'était pas solide, et puis le danseur était un petit peu comme dans un scaphandre, donc on pouvait pas vraiment bouger avec ça. Donc on a beaucoup travaillé aussi là-dessus, sur comment dématérialiser un petit peu ce costume pour qu'il soit simplement un outil au service du corps. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la solidité aussi des capteurs.
Tout cet apprentissage de la technologie, ça vous a poussé plus loin au niveau artistique ou au contraire, ça vous a mis dans des rails?
Alors non, mais c'est ça, il faut s'affranchir. J'en suis là, j'en suis vraiment... J'ai franchi une première marche en fait. Et je dois monter tout en haut de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que le truc, c'est que pour être totalement libéré de ce truc-là et pouvoir être dans une totale abstraction de cet outil, de ne pas se laisser emmerder par la technologie, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler encore. Aussi bien sur le plan de l'instrument, de l'outil, mais aussi sur la formation des danseurs, sur s'affranchir de la difficulté technique que c'est que de jouer du corps. Jouer du corps. Sonore, enfin
ouais. Du corps humain,
hein,
du
corps. J'ai du mal à trouver des mots pour ce truc-là, mais c'est ça. Hein.
Et vous la mettez vous la combinaison de temps à autre?
Au départ je l'ai mise pour savoir si entre ce que je projetais et ce qui était réalisable, c'était pas de l'utopie. Et je me suis vite placé en œil extérieur parce que c'est beaucoup beaucoup de choses à penser en même temps. Il faut que je pense son, musique. Mouvement, écriture, propos chorégraphiques, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et plus les problèmes qu'on rencontre, les bugs, les capteurs qui ne fonctionnent plus, plus de données, enfin...
Alors pourquoi se mettre ce poids supplémentaire finalement ?
Mais parce que ce qui est intéressant, c'est de se faire peur, c'est de se mettre en déséquilibre. Parce qu'il y a danse à partir du moment où il y a déséquilibre. Bon, eh ben voilà, ben allons-y, restons déséquilibrés. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'aller foncer dans des nouveaux territoires pour le frisson et pour l'émotion que ça peut procurer, parce que lorsqu'on réussit quelque chose, qu'on en chie, bah, l'alarme elle vient à l'œil, quoi. Et c'est, je pense que voilà, je suis là pour ça. Je suis pas là pour autre chose. Si j'étais là pour réchauffer des plats, voilà.
Alors, difficulté supplémentaire, il me semble, on a pu voir circuler quelques photos de Connecting Soul. Les danseurs ont l'air aveugles. Ils ont.
Bah, ce qui m'a. Voilà, bah, c'était.
C'est, ouais, aveugle, c'est-à-dire,
ils sont tortionnaires, en
sorte de cagoule qui les empêche de voir, quoi.
Tout ça simplement pour supprimer la vue, partiellement évidemment, parce qu'ils voient quand même un petit peu, mais c'était pour être plus à l'écoute du son produit, pour que les danseurs soient plus préoccupés par la forme de ce qu'ils vont produire, la forme du corps, du mouvement, mais par le ressenti. Le ressenti de la musique créée.
Le connecting soul, quoi.
Eh oui, mais c'est ça, c'est qu'après, c'est une écoute intérieure. Et j'avais vraiment envie de ça, de le faire avec la danse hip-hop. De plus se soucier de la performance et de l'image qu'on projette, mais du ressenti. D'être plus en contact avec l'essence de la musique, l'essence du groove, hein, de l'énergie que produit la musique dans le corps.
Tu as l'impression d'avoir franchi des limites pendant cette démarche, d'avoir un peu fait des découvertes aussi sur ta façon d'écrire la danse.
Ah bah, alors je me suis perdu. Je me suis perdu. Ce spectacle-là, pour moi, ça reste un ovni. Parce que si on compare, par exemple, la pièce que j'avais écrite en 2000, Drop It, où les mouvements sont calés sur la musique. C'est vraiment une des spécificités de la danse hip-hop. C'est vraiment, pour le coup, que chaque impulsion du corps, des membres, elle est vraiment en lien avec le son, le rythme, la mélodie, tout ce qu'on veut. C'est facile à faire, en quelque sorte. Et là, je me suis perdu, parce que j'avais tellement de choses à comprendre au fur et à mesure que j'avançais, que j'arrive pas à comprendre vraiment cette pièce. Voilà. Donc, mais c'est, moi, je pense que c'est bien de le dire aussi, de dire que qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait et que voilà.
Toi aussi, tu étais à l'aveugle aussi. Il y a pas que.
Ouais, mais j'ai la cagoule, hein, encore. Hein.
Mais ta cagoule. Oh, très joli.
Il y a du hip-hop. C'est la preuve.
C'est de l'actu. C'est de l'actu. Et,
tu penses que. T'as fait comment dire le corps avec lequel tu travaillais quand tu faisais du hip-hop, enfin le corps qui existait dans ta danse au moment où tu faisais du hip-hop et le corps que tu fais exister aujourd'hui dans cette danse, c'est le même, il a changé?
Alors peut-être que je suis pas arrivé à ce que je veux faire là, mais l'objectif il est celui-ci, c'est que ce qui m'habite quand je me mets à danser sur du son. Il est très très fort en moi et ce procédé que j'utilise de nouvelles technologies, tout ça, c'est pour arriver à aller toucher de plus près cette source, aller à la source de l'instinct, de la pulsion instinctive, parce que c'est une danse viscérale, la danse hip-hop, c'est pas une danse conceptuelle, c'est vraiment quelque chose de d'abord c'est une danse spontanée qui se pratique sur quelques secondes, c'est 15-20 secondes. Normalement, quand on est dans un cercle, c'est une danse de rue, c'est une danse de défi, de combat, c'est une danse qui s'étale pas sur une heure, normalement. Tu vois, donc c'est très compliqué de faire un spectacle de danse hip-hop sur une heure, si on veut garder la spécificité de cette danse, côté viscéral. Donc mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que je lâche pas le morceau, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la source de ça. Qu'est-ce qui fait que tout à coup on entend bim bang boum bang et le corps se met à bouger? Pourquoi ça? Pourquoi? Voilà.
Et justement, les adeptes de cette danse, ceux qui la pratiquent encore, comme tu viens de le définir, dans Connecting Soul, ils vont reconnaître quelque chose, ils vont sentir justement ces viscères dont tu parles. J'espère.
C'est ma volonté maintenant. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette pièce. je sais pas qui comprend quoi, qui est sensible à quoi, qui est, je sais pas.
On va se retrouver après le spectacle alors.
Voilà. Hein.
Peut-être que ton projet c'était de passer du corps muet du danseur à un corps musical, peut-être. Ça c'est peut-être réussi ça.
C'était une manière de d'appuyer sur quelque chose, c'est-à-dire de c'est-à-dire j'ai trouvé moi dans mon parcours musique et danse que le son allait porter un peu plus loin, même physiquement, puisque le son, c'est de la pression acoustique. Donc, si on joue fort, on ressent les vibrations, les infrabasses, par exemple, on les ressent dans les tripes. Et le fait que ce soit le mouvement qui fasse naître ce son, qui dirige la fréquence du son, le déroulé du son, qui est un impact physique sur le spectateur, puisque le son porte hein, sur le corps. Et donc, c'était une manière de donner une extension au corps en mouvement. C'est clair ?
Oui, c'est une sorte d'environnement en mouvement qui est projeté par des corps en mouvement.
Quoi. Ouais, c'est ça. C'est que le son, pour moi, c'est une extension du corps en mouvement. Donc, on a la perception visuelle et on a la sensation physique par le biais du son.
Tu vas continuer sur cette route-là ?
Ouais, je pense que oui, je sais, oui.
Tu travailles sur quoi là parce que Connecting Soul, c'était créé en 2006, donc là ça tourne, donc évidemment beaucoup de travail, j'imagine. D'ailleurs, là les danseurs ils font quoi là ils se préparent, ils passent les costumes.
Ils chargent les batteries. Parce qu'il y a des petites piles hein, sur le corps, il y a un petit boîtier, tout est transmis en Wi-Fi en fait. Et le problème principal c'est l'énergie. Et des fois il n'y a plus de piles. Donc il se recharge là.
Il y a des bugs souvent.
Il y a eu des bugs.
Ouais. Bah ouais, non, mais il suffit que la pile ne soit pas au top, la transmission se fait moins. Enfin, maintenant ça va mieux parce qu'on a des boîtiers vraiment. Voilà, avant on transmettait en FM les choses et ça nécessitait plus de puissance et puis enfin bref, c'était pas pareil. Mais là ils sont en train de se charger, ouais.
Il y a un petit stock de piles dans les coulisses au cas où il y a un bug.
Toujours. Des fois il est arrivé que on mette des piles neuves et puis les piles. Voilà.
Alors Norbert Corsino.
Et les procédés embarqués, donc ils sont aussi sur batterie. Hein, donc tout ça est sur
c'est
batterie.
Ça.
Ils ont tout sur.
Tous les capteurs sont reliés à un petit boîtier qui est dans le dos. Ouais. Et on peut le voir d'ailleurs si on fait attention. Il y a une petite lumière verte qui dit c'est OK. Et quand c'est rouge, c'est qu'il n'y a plus de piles. Voilà. Et tout ça est transmis en haut des gradins là ce soir où il y a deux personnes qui travaillent derrière les ordi pour vérifier si tout va bien.
Voilà. Donc, Franck, merci. Alors, je ne sais pas si tu veux rester avec nous, si tu dois y aller pour
recharger les piles.
recharger tes piles.
Ils ont bien chargé ça comme il fallait. Bon, en tout cas, Thierry Ola nous a rejoint, directeur du Musée d'art contemporain de Marseille et des ateliers d'artistes de la ville de Marseille. Alors, tout à l'heure, quand Franck Delouise parlait de ses soucis de capteurs qui rouillaient avec la sueur, avec les vapeurs de sueur, tout ça, on voyait que ça évoquait des souvenirs douloureux à d'autres autour de la table. Donc, on en parlera bien sûr avec eux. Mais je voudrais avoir votre sentiment, à vous, Norbert Corsino, Michel Ricosi, Jean-Marc Montera, Thierry Ola, sur l'évolution de la danse hip-hop depuis son apparition, quand on voit des démarches comme ça aujourd'hui. Quand on voit que la danse hip-hop commence petit à petit à être acceptée dans le sein du champ de la danse, de ce qu'on appelle la danse contemporaine, de quel œil vous voyez l'évolution de cette danse-là, Michel Ricosi ?
De quel œil ? C'est-à-dire que depuis les années 80, la danse hip-hop a énormément évolué, en termes de propositions rythmiques aussi, également, parce qu'au-delà de ce qu'expliquait Franck Delouise, de cette danse qui était initialement, mais qui est toujours faite de défis, de combats et essentiellement de rythme, ils se sont un petit peu affranchis de ça pour y revenir un peu mieux. C'est-à-dire cette relation à la musique a énormément évolué, tout en gardant quand même une spécificité très forte, hein, qui est effectivement le rythme. Et notamment les nouvelles technologies, dans ce qu'il a expliqué, c'est clair qu'ils arrivent à dépasser cette notion de rythme, pour mieux y revenir, pour aller à la source. Donc voilà. Donc cette source pour nous aussi.
C'est un enjeu important aussi pour vous, la relation de la danse et de la musique dans vos différents travaux. Norbert Corsino, vous voulez dire deux mots sur l'évolution de la danse hip-hop? En
oui.
France.
Oui, mais, oui tout à fait. Mais absolument. Mais figurez-vous qu'on a réalisé il y a quelques années un film qui s'appelle Hip Hop et Rimancourt, HHH. Et avec des jeunes danseuses hip-hop, il n'y avait que des filles. Et donc, on a bien pu se rendre compte, quand on les a filmées, que c'était des jeunes bon, qui étaient, je dirais, qui n'étaient pas professionnels, hein, c'était pas le but, mais qui avaient une tenue et une manière de danser qui était tout à fait remarquable. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois, pour elles, à chaque répétition, à chaque prise, par exemple, que l'on devait faire, et il n'y avait pas de marquage, quoi. Elle dansait à chaque fois. C'était un trip, quoi. Et je crois que et on peut pas, elle pouvait pas descendre de ce trip comme ça en disant bon, on arrête, vous allez répéter, etc. Non, il fallait qu'elle fasse tout. Et je crois que c'est cette notion de danse urbaine qui est plus que binaire, puisqu'il y a une évolution du rythme. Enfin, en tout cas, elle est forcément bipédique. Eh bien, c'est toute l'origine de l'homme, quoi. C'est le rythme fondamental. Et ce qui est très intéressant dans le travail de Franck Deluis, je crois, c'est qu'il a réussi à trouver, par le biais des techniques actuelles, cette relation directe du son produit par ces danseurs qui, en fait, eux-mêmes, à la base, enfin, du hip-hop et du rap, c'est la voix elle-même rythmée les pas, etc. Donc c'est quelque chose d'immédiat. Et c'est cette immédiateté que je trouve très intéressante. Voilà.
Vous, en tant que chorégraphe, ça fait de nombreuses années, vous travaillez avec des gens de l'IRCAM.
Oui, avec les gens de l'IRCAM, entre autres, mais avec de nombreux laboratoires. Et c'est vrai qu'on s'est souvent mis dans le triptyque art, recherche, industrie. Alors, suivant les projets, il y a toujours plus d'art que de recherche et d'industrie. Mais en fait, la recherche est nécessaire parce que, tout simplement par curiosité et par défi, hein, c'est ce que signalait Franck Deluis tout à l'heure, c'est ce défi, cette vibration qu'on cherche de savoir ce qui peut, d'aller vers l'inconnu, en fait. Et l'industrie, parce que souvent, très souvent, ce sont des laboratoires publics ou privés qui sont joints à. À qui on fait appel pour réaliser nos rêves.
Le dialogue est facile. C'est facile de parler à un chercheur. C'est facile de parler à quelqu'un qui est dans l'industrie, dans la recherche.
C'est facile de parler. C'est la question-réponse. je crois que ce qui est très très différent pour des laboratoires, enfin pour l'université, pour même pour des privés. Enfin, tout à l'heure, Franck Deluis parlait du MIT. Bon, le MIT, on a été pour voir si on pouvait faire des choses. Bon, c'était pas facile et ça a été un début de quelque chose qui n'a pas fait suite. Mais ça nous a permis de faire des conférences, etc., etc. Mais disons que les notions de temps et de deadline sont très différentes quand on a une production et avec un laboratoire, parce que le laboratoire, ils peuvent chercher de nombreuses années sans s'arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément. Bon, alors suivant les projets, c'est vrai qu'il faut arriver à un dialogue, à une certaine élasticité. Bon, et le dernier projet que l'on fait, la seule avec Lou, actuellement présenté à Bargemont, ça a été quand même plus d'un an de travail entre l'IRCAM, entre l'IRISA, qui est un laboratoire de réalité virtuelle à Rennes, qui dépend de l'INRIA. Bon, voilà.
Un an de travail, vous allez beaucoup plus vite que Franck Deluis. Alors lui, ça lui a pris 6 ans, mais ça fait longtemps que vous faites ça, non?
C'est-à-dire qu'il y a des projets qui se suivent et qui, j'espère, ne se ressemblent pas. Mais bon, il faut quand même du temps. Dès qu'il y a de la technologie haute ou lourde, il faut du temps. Mais on n'est pas associé continuellement à de la technologie très 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 hype, si je peux dire ainsi. Puisque par exemple, on a fait même des prises de vue avec, vous savez, des petites caméras MP4. Bon, c'est le même
modèle qu'on trouve dans le commerce.
Oui, c'est le même modèle que vous avez avec les téléphones portables, les téléphones mobiles. Mais on a filmé comme ça aussi, donc pour faire des petites séquences. Et donc ça, c'est de la basse technologie, je dirais, et qui demande pas ni beaucoup de moyens. Qui demande après de la. Il faut savoir ce qu'on va en faire, quoi. Hein. Vous posez une question.
Michel Ricosi voulait intervenir sur le thème du dialogue.
Non, sur le thème du temps.
La
notion de laboratoire et l'appréhension du temps. C'est vrai que les chercheurs ont des notions de temps qui sont vraiment très dilatées par rapport à nous, artistes, qui avons effectivement des applications plus... des besoins plus directs et des demandes beaucoup plus précises en termes de deadline, parce qu'on a une production, parce qu'on a un public, parce qu'on convoque des gens et qu'à un moment donné, il faut que la proposition puisse se construire. Et c'est clair que nous, par exemple, en ce moment, on est dans ces préoccupations-là. C'est-à-dire qu'on a des échéances, mais c'est vrai que c'est jamais assez long. Le temps est jamais assez long pour les chercheurs qui doivent toujours développer. Et nous, en termes d'application, on est là et on veut obtenir quelque chose. On a des projections qui sont beaucoup plus précises. Et je pense que c'est nécessaire aussi pour booster l'histoire, pour qu'à un moment donné, on puisse prendre des décisions en termes artistiques, mais aussi qui correspondent à des besoins techniques et des résolutions d'une problématique, en fait.
Et si le chercheur ne trouve pas, alors on abandonne un pan de l'artistique ?
Ouais, moi je suis pour avoir des décisions assez claires, nettes et précises et assez radicales pour dire, voilà, ok, à ce stade-là du travail, on en est là et on va faire des choix qui sont pas qu'artistiques, avec tout ce qu'on avait projeté, mais qui sont des vraies résolutions.
Jean-Marc Monterrain n'est pas d'accord, visiblement.
Si, non, je suis d'accord, mais généralement, de manière générale, le chercheur est têtu. Donc, c'est rare qu'on abandonne comme ça aussi facilement une idée, et surtout quand on ne trouve pas. Donc, alors effectivement, pour demander un quelque chose d'hyper simple dans le système analogique, hein, deux pistes qui se croisent, un crossfade normal qui prend en gros le temps de le faire, de le programmer, ça prend minimum une demi-heure, trois quarts d'heure, alors qu'en le faisant à la main, ça prend cinq minutes. Ça paraît être un détail anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Ça pointe en fait que on doit d'un côté comme de l'autre à appréhender les langages de chacun et d'arriver à se comprendre sur des terrains où on n'a pas l'habitude d'être. Quoi. Et c'est très, c'est, enfin, le boulot qu'on fait en ce moment, c'est vraiment une leçon de modestie. Quoi. Parce que Franck disait tout à l'heure que lui, il était à la première marche et qu'il fallait qu'il monte la Tour Eiffel. Nous, on est encore à Marseille. On n'est pas encore arrivé à Paris.
Alors
la Tour Eiffel,
c'est
la deuxième étape.
Puis, les chercheurs doivent parfois être décontenancés par les demandes que doivent leur faire des artistes.
Mais bien sûr. Et c'est normal. C'est normal parce que on est dans l'attente de quelque chose qui nous semble d'une évidence remarquable et qui pour eux nécessite un temps de travail qui peut remettre en question tout ce qu'ils ont fait la nuit précédente. Donc et nous on n'est pas toujours à même de le comprendre, ça. Donc c'est...
Alors peut-être il faudrait revenir un petit peu sur vos travaux, que vous nous définissiez un petit peu comment vous travaillez avec la technologie. Vous utilisez aussi, vous, Norbert Corsino, des capteurs, mais vous, c'est plutôt des capteurs de mouvement pour retranscrire le mouvement, c'est ça ?
Oui.
On va essayer.
Alors, je vais répondre à cette question juste pour dire aussi que nous avons l'immense chance de travailler dans un centre européen pour les arts numériques qui s'appelle Ars Numérica, qui fait suite au feu CICV, qui était un centre international de création vidéo d'artistes en résidence, et qui se perpétue, qui renaît de ses cendres, je dirais, grâce à cet outil.
Et qui
est basé à Montbéliard, d'accord, dans l'est de la France. Voilà. Donc on a cette chance de pouvoir avoir des résidences d'artistes avec des moyens techniques et des machines pendant de longs mois, enfin que lorsque c'est notre tour. Hein. Et je crois qu'on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait si on n'avait pas cette base
technologique,
oui, et cette aide en apport en industrie, comme on dit. Hein. Maintenant, pour répondre à votre question. Alors c'est vrai que en ce qui concerne la création qui est présentée actuellement, parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes terrains, dans les mêmes territoires, hein, c'est effectivement, on part toujours du vivant. En tant que chorégraphe, Nicole Corsino et moi-même, on fait répéter des danseurs, des interprètes en studio, comme pour un spectacle. Les séquences chorégraphiques sont répétées, sont établies. Très souvent dans le travail que l'on fait, soit pour des films, soit pour des installations, ce sont des séquences courtes, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas une minute et demie, deux minutes. On pourra revenir
sur ça si vous voulez après. Et ensuite, c'est les mêmes interprètes. Eh bien, on prend la trace de leur mouvement. Ils endossent des habits avec des capteurs optiques. Hein, ce n'est pas les mêmes capteurs dont parlait Franck Deluis tout à l'heure, qui sont des capteurs magnétiques. Et ces capteurs optiques, eh bien, ils sont repérés par un ensemble de 24 caméras. Donc, on prend la trace de ces petites boules blanches dans l'espace. Et pourquoi il y en a 24? Eh bien, pour qu'on puisse ne pas avoir de perte de mouvement quand il y a un mouvement qui fait le tour sur un 360 degrés, quoi, bien sûr. Et puis, il y a 32 capteurs. Donc, il faut garder la mémoire de tout ça. Et à partir de là, eh bien, ces mouvements, ces datas sont analysées. Elles sont appliquées à un clone, puisque là, il s'agit de clones. Ces clones sont mis en mouvement ensuite avec un squelette qui bouge suivant les traces du mouvement qui a été récupéré. Et nous créons des scénographies en relation au thème choisi initial. Et voilà ce qui donne les 12 séquences qui se déroulent en boucle avec des modifications. Voilà, avec une interactivité, soit sur le son, soit sur l'image.
Alors il y a deux. Pardon.
Peut-être même exercice pour Jean-Michel et Michel, expliquer un peu comment ils travaillent, eux, avec la technologie. Peut-être Michel va nous expliquer.
Bah, oui, alors du point de vue de la musique, effectivement, on travaille avec des... C'est amusant parce qu'on est sur des formes musicales complètement différentes. Et en fait, on rencontre exactement les mêmes problèmes. Et c'est ça qui est... C'est dommage que Franck n'ait pas pu venir en mai dernier à Son de Plateau quand je l'avais invité, parce qu'il était en Angleterre. Mais en fait, la forme musicale est complètement secondaire par rapport à l'objet, par rapport à l'outil. Nous, on travaille sur un principe qui est relativement pérenne dans ce cas-là, hein, depuis 1999. C'est-à-dire qu'on a rien de pré-programmé, de pré-enregistré et de pré-établi. Il y a une écriture chorégraphique qui se fait en parallèle du dispositif vidéo de Patrick Lafont, à l'époque où c'était Patrick Lafont. Nous, du point de vue du son, on travaille avec des capteurs qui étaient des pastilles de téléphone, enfin les haut-parleurs de téléphone, dont j'ai inversé les soudures pour en faire des micros et que j'ai inséré dans les vêtements de Michel pour avoir, avec un boîtier HF, pour avoir un son analogique à distance qui simule le Wi-Fi, quoi, en fait. Bon, maintenant, on travaille avec un procédé qui est beaucoup plus élaboré, donc effectivement, on rencontre beaucoup plus de problèmes. Hein, le fer à souder est toujours en chauffe, mais on est sur un système de captation du son.
Alors vous, quoi, vous captez quoi? Vous captez le son du danseur?
Alors non,
la danseuse en l'occurrence.
Pour décrire la chaîne, on fait un descriptif très pragmatique.
Sommaire, voilà.
Oui. Moi, je joue pour la première fois en live de la guitare acoustique et que de la guitare acoustique et des objets sonores, de quelques objets concrets, de sons concrets que je manipule devant un micro statique, tout ce qu'il y a de plus banal. Ce système de micro est relié à un ordinateur qui travaille avec un système pure data, lequel est relié lui-même au système de capteurs sensoriels dont Michel est équipé, les mêmes types de capteurs dont Franck parlait tout à l'heure, en trois dimensions, etc., etc. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Et elle intervient sur les paramètres, sur certains paramètres du son et de l'image, de la vidéo, qui sont déterminés par les patchs que Yvan Chabano ou Juan Faber et Thierry Thomas Thierry gèrent avec leur ordinateur en temps réel.
D'accord, donc elle intervient quand même, elle aussi, sur la musique aussi.
Complètement.
Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce type de démarche avec beaucoup de technologies? Franck Deluis tout à l'heure nous rappelait que lui, il avait une idée de corps musical comme ça, du danseur qu'il avait envie de faire aboutir. Vous, qu'est-ce qui vous a amené sur ces territoires-là, technologiques?
Je dirais presque, alors bien qu'on n'ait pas les mêmes matières, et sonore et physique et corporelle, je dirais presque par le langage la même chose que lui dans ce qu'il a dit, je me retrouvais complètement, cette idée de filiation sonore que j'ai dans ma danse depuis ma rencontre avec Jean-Marc, mais bien avant lui, puisque effectivement le rythme être dessus, être en dehors, être détaché, y revenir, s'en détacher pour mieux y revenir, tout ça me parle énormément. Et là, dans ce travail, c'est malgré le paradoxe dans lequel on est, c'est malgré toutes ces contraintes, on est dans de plus en plus de liberté. C'est-à-dire que plus le cadre est contraignant, il est précis, il est élaboré, plus on est libre de s'y appuyer dessus, de trouver des points d'appui, comme en musique, mais de s'en détacher aussi. Et c'est assez jouissif, moi, j'irais, dans le sens que cet instrument, effectivement, physique devient sonore. Bon, c'est un peu bateau de dire ça. Et oui, la motivation, elle est sensitive. Hein, et elle est dans cette expérience-là, aussi humaine, dans ce groupe-là. Bon, nous, Scalen, c'est un groupe assez particulier, puisqu'on est vraiment en live, tous sur le plateau. On n'a pas de choses préenregistrées, préétablies. Mais malgré tout, on a une écriture quand même. On a une structure qui est assez précise. Je dirais qu'on a une forme d'écriture dans la structure narrative, entre guillemets, du projet, puisqu'on a un déroulement chronologique des événements. Mais on a une grande plage de liberté à l'intérieur dans laquelle chacun a la responsabilité de développer et de répondre en live en fonction de ce qui se passe et qui n'est absolument pas identique d'une performance à l'autre. Voilà.
Norbert Corsino, alors on voit les démarches sont voisines, les outils sont voisins. Pour vous, quand même, ce qui reste particulier, c'est que vos propositions depuis longtemps sont présentées dans des espaces muséaux, plus du tout sur des scènes. Et qu'il y a une prise en compte du visiteur, du spectateur particulière. Quoi. On n'est plus du tout là dans le rapport frontal que continue de proposer. Quoique si, vous proposez un rapport frontal, vous, mais d'individu à écran, quoi, on va dire.
Enfin, oui, c'est ça. En fait, le c'est ça et c'est pas ça, bien sûr. Allez-y. Mais bon, on est toujours, du fait que le spectateur peut être libre de circuler, forcément, il peut toujours se mettre face à l'image ou face au son. Donc, c'est une très bonne manière de voir l'image, une très bonne manière d'écouter le son. Mais il est évident qu'il peut être libre de circuler dans l'espace qui est réservé à sa déambulation, quoi. Bon. Mais il peut avoir une zone où il peut interagir avec l'image ou avec le son. Et c'est l'interactivité que l'on a développée, elle est, je dirais, discrète, si je puis dire, en ce sens que tout peut se voir ou s'entendre sans qu'il y ait interactivité. Hein, c'est un premier niveau de spectaculaire. Et le second, c'est que si quelqu'un veut modifier, par exemple, transformer ou apporter des modifications environnementales à ce qui se passe dans l'image, c'est plutôt ça qu'on a choisi de faire, ou bien des mouvements de caméra, eh bien, du coup, il y a un second degré de spectaculaire, c'est-à-dire que les spectateurs voient non seulement la personne qui transforme la chose, l'objet, et en même temps, celui qui fait transforme. Et il y a même un troisième niveau. Ça, c'est arrivé quelquefois, c'est que cet espace où sont les spectateurs peut devenir un espace scénique, curieusement. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui est sensible, bon, ça peut être un danseur, évidemment, ou quelqu'un, ou un comédien, ou même quelqu'un qui fait du tai chi. On a vu ça, aussi, un Chinois qui s'est mis à faire du tai chi, mais il prenait en compte ce qu'il faisait et les réactions du public. Et donc, l'espace du regard et l'espace de l'écoute redevenait un espace scénique. Alors ça arrive quelquefois, et puis c'est pas le but. Hein. Ça, c'est très bien que ça arrive quelquefois. Quoi. Voilà.
Alors, il y a, je crois que c'était avant-hier où je ne sais plus quel chorégraphe pointait le fait qu'aujourd'hui, les propositions chorégraphiques tendaient de plus en plus vers l'installation plastique. Le mouvement commence un peu à disparaître et ça va vers la sculpture, vers les arts visuels de plus en plus. Thierry Ola, vous êtes directeur du MAC, et des ateliers d'artistes de la ville de Marseille. Est-ce que, de quel œil vous regardez ces propositions de chorégraphes, est-ce que vous en voyez beaucoup dans les musées, dans les centres d'art, et quel œil vous voyez ça?
Bonsoir, on aimerait en voir beaucoup plus d'ailleurs, mais ce que je pense c'est qu'actuellement la transdisciplinarité est quelque chose qui est pratiqué couramment par tous les artistes, qu'ils soient musiciens, chorégraphes, plasticiens et autres, et que c'est absolument plus un problème d'être dans le musée avec une proposition musicale ou sur la scène musicale avec une proposition chorégraphique, etc., etc. Et que c'est ce qui fait la richesse de notre vie aujourd'hui, c'est que d'une part, il y a cette possibilité de franchir très aisément les frontières, en s'affranchissant assez simplement des problèmes technologiques, puisqu'on peut en charger d'autres qui sont des spécialistes, comme vous l'avez très bien dit. Et puis l'autre chose aussi, c'est cette perméabilité qui existe entre maintenant, de plus en plus, entre les différents espaces de production de la nouveauté artistique. Tantôt l'espace de la rue, on parlait d'art de la rue tout à l'heure avec le chorégraphe que vous avez invité et qui va donner son spectacle tout à l'heure. Et le hip-hop et ces danses-là ont finalement contaminé très rapidement l'espace élitiste ou élitaire, entre guillemets, que peut être le musée dans certains cas, ou je ne sais pas, d'autres types de lieux référencés. Et on observe de plus en plus, et les arts visuels aussi en rendent compte, puisqu'il y a eu récemment à New York, quelques années, une exposition qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait High and Low, à propos justement du mélange entre les cultures populaires et les cultures plus élitaires. Et quelqu'un comme le point de départ de ça, c'est principalement Warhol et les années 60.
Alors là, le MAC est associé au Festival de Marseille à travers une proposition de Daniel Larieux et une exposition Tony Grand.
Oui, c'est ça. On a eu beaucoup de chance, en fait. C'est un petit miracle qui s'est produit grâce à la gentillesse d'Apolline et à la complicité qu'elle a eue avec Amélie. Amélie s'occupe des hivernales à Avignon, qui est un festival de danse aussi. Et elles se sont rencontrées alors qu'on était dans la phase préparatoire de l'exposition, donc avec un commissaire, Didier Larnac, qui est aussi très intéressé à montrer le travail de Tony sous une forme qui soit nouvelle et inattendue, avec cette sorte de paradoxe de parler de la sculpture en traitant de la ligne, du déplacement d'une ligne dans l'espace. C'est aussi assez chorégraphique, finalement, une trajectoire. C'est ce que vous faites, ce que vous montrez très bien. Et puis c'est aussi ce qu'on peut voir aussi. Tiens, à propos justement de transdisciplinarité, il y a une très très belle pièce qui est entre l'école d'architecture et l'école des beaux-arts de Marseille, qui est une œuvre réalisée par des architectes du groupe Dicoy pour Dialogue de Paix à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU à Genève, et qui en fait provient d'études que ces architectes ont menées avec les danseurs du ballet Forsyth. Francfort. Ils sont restés avec eux pendant plusieurs mois et ils ont étudié. Vous parlez, le chorégraphe invité tout à l'heure parlait de la gestion de l'énergie. Eux ont pas un rapport à l'énergie par rapport à la technologie, mais par rapport à l'énergie physique des danseurs eux-mêmes, qui pour certains sont fatigués, malades, etc. Et ils ont créé de nouvelles chorégraphies pour tenir compte de l'état physique des danseurs pendant la durée du spectacle, certains étant particulièrement vulnérables. Et de ce travail, de cette étude-là faite par les architectes avec le chorégraphe, on a découlé une sculpture qui est faite justement d'un mouvement vectorisé dans l'espace qui devient à la limite une façade pour des architectures futures. Je vous invite à voir cette pièce, elle se trouve entre les écoles d'art et d'architecture à Marseille, à Lumini.
Daniel Larieux, dans l'exposition de Tony Grand, c'est déjà passé ou
Non, excusez-moi, je n'ai pas répondu complètement à la question. On a eu un très beau vernissage des expositions de Tony Grand, Peter Friedel, et aussi, on a une nouvelle sculpture aussi dans le parc qui vient d'être installée dans le parc de Bonneveine, là, juste à côté du MAC, de Fabrice Gigi. La performance de Daniel Larieux aura lieu le 3 juillet, à 18h30, dans le hall d'entrée du MAC, où nous avons installé la pièce que Tony Grand avait réalisée spécialement pour le musée de Céret. Et ce désir d'intervenir dans cette pièce-là, Daniel Larieux l'avait depuis très très longtemps, il en avait parlé avec Tony, il en avait parlé avec Amélie, évidemment, et il n'a jamais pu le réaliser. Il n'y a pas eu l'occasion, le temps, enfin les emplois du temps des uns et des autres ne concordaient pas. Et finalement, dans la préparation de cette exposition, on a pensé à cette pièce très fortement, Amélie, moi-même et Didier Larnac, et on s'est dit, l'endroit idéal pour la montrer, c'est absolument le hall du MAC. Et très très vite, ensuite, Apolline a rencontré Amélie, et elles ont parlé de cela. Apolline ayant en ouverture du festival Daniel Larieux avec Waterproof. Et tout s'est enclenché de cette manière très simple. Et merci encore Apolline.
Qui vient de nous rejoindre. Et qui sort du spectacle de trash comme chaque soir.
Oui, je suis trash chaque soir. Voilà. De plus en plus trash.
Juste pour finir avec Thierry, là, on parlait de l'utilisation par des chorégraphes de ces technologies numériques qui sont de moins en moins nouvelles et de plus en plus contemporaines. Du côté des arts visuels, comment les artistes qui sont dans l'art contemporain, comment ils se saisissent de ces technologies? Parce qu'on a l'impression que les chorégraphes, ils sont plutôt dans l'adhésion à ces technologies, ils s'en servent pour ouvrir des perspectives, tout ça, etc. On a l'impression, peut-être dans l'art contemporain, c'est plus en même temps une mise en doute, une interrogation de ces technologies.
Là, les propositions sont très variées. Il y a aussi bien des artistes qui sont dans la soumission à la technologie. En général, c'est très ennuyeux. On tourne très vite la page.
Je ne voulais pas dire soumission.
Non, mais malheureusement, ça se produit particulièrement en art vidéo, entre parenthèses, parce que j'ai eu la chance à la fois. J'étais responsable une année d'un festival vidéo en Suisse qui s'appelle Vidéo Indépendante Suisse. Et on m'a imposé de compiler la production de 2 années dans toutes les écoles, etc. Et il y avait vraiment que des gens fascinés, enfin principalement beaucoup de personnes fascinées par les boutons sur les machines et tous les effets spéciaux. Ça, c'est la partie la plus ennuyante. Mais par contre, il y a énormément d'artistes qui sont fascinés par les technologies et qui savent les utiliser dans ce qu'elles ont de plus porteur pour la réflexion. Bon, c'est pas d'aujourd'hui. Enfin, quand vous parliez tout à l'heure des capteurs sur le corps, quand on voit les photographies de Louis Bridge d'Étienne Jules Marais, enfin, on est dans une histoire qui se poursuit. L'interrogation sur le rapport du temps à l'espace est récurrente.
Cette fascination d'Norbert Corsino, vous la vivez, vous, cette fascination pour la technologie ?
Non, on n'est ni fasciné, ni craintif. Je crois qu'il faut... je crois que la technologie est une extension du vivant. Hein. D'ailleurs, c'est nous qui créons ces objets-là. Le micro dans lequel je parle, c'est une invention humaine, donc il ne faut pas en avoir peur. Hein. C'est comme la serrure et la clé. Quoi. Il y aura toujours un inventeur de la serrure et un inventeur de la clé qui va ouvrir la serrure. Bon. Effectivement, en référence à l'histoire et à Fluxus et à Andy Warhol, etc. Enfin, il y a eu des temps très très forts dans l'histoire des arts plastiques et de la danse, en particulier avec des créations comme Variation 5 de Merce Cunningham dans les années 64-65, où on voit des capteurs qui sont des antennes sur scène, où les danseurs se rapprochent, s'éloignent et déforment les sons envoyés en direct par David Tudor et John Cage, entre autres. Et ceci fait l'objet d'une émission de télévision en Suisse, quoi, à l'invitation de Stockhausen. Et c'est assez extraordinaire. Il y a des images de Peck qui sont décadrées par rapport aux écrans. Les écrans sont de travers. Enfin, c'est quand même, je crois que c'est une chose qu'il faut voir pour se rendre compte que ça a tout le temps intéressé les artistes de se mélanger, de se frotter, de se friter, je dirais, aux techniques. Et bon, voilà.
Et le risque de la soumission qu'évoquait Thierry Ola, il existe ?
Oui, bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il existe. Mais justement, quand on a une table comme ça devant soi, ou des tables de post-production. Il faut justement faire parler les machines et leur faire cracher ce qu'elles ne savent pas. Parce que ce qu'elles savent, les techniciens peuvent le faire. Donc on peut, voilà.
Je crois que vous parlez à propos de votre travail, vous, d'hybridation.
Oui. Oui, hybridon, comme disait.
Alors, qu'est-ce que vous hybridez ?
Écoutez, je crois que ce qu'on hybride, c'est que. C'est que déjà, on rencontre des gens extrêmement intéressants qui ne sont pas dans le même domaine que par le fait des productions même, je dirais que le retour sur hybridation est extrêmement intéressant parce que on peut justement aller dans des galeries, on peut aller dans des musées, on peut aller dans des espaces industriels rénovés si possible, parce que si c'est pas rénové c'est plus difficile. Bon. Et donc on va à la rencontre de publics extrêmement différents et c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est que viennent voir la danse, si je puis dire, de la même manière et autrement, des gens qui n'iraient pas forcément d'ailleurs au concert ou au spectacle de danse. Et ça, c'est extrêmement intéressant, de voir que des gens qui sont touchés par la danse ou par la chorégraphie, par le mouvement des corps, on va dire en général, et qui ne sont pas forcément des spectateurs de la danse, quoi. C'est un problème, ça aussi. Voilà.
Mais c'est quoi ça ? C'est le mode de diffusion qui fait ça ou c'est la technologie que vous utilisez ?
C'est les deux. Enfin, je veux dire que c'est plus qu'un mode de diffusion. C'est que le spectaculaire se place ailleurs que dans le rapport de la scène théâtrale. Alors, ça ne vient pas évidemment en moins. Ça ne va pas contre, en tout cas. Mais ça vient. Ce sont des extensions, ce sont des prolongements. Et je crois que c'est vrai qu'avec l'intrusion et la l'irruption, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que la technique, la technologie, elle, c'est pas neuf qu'elle soit interpellée par les artistes ou qu'elle interpelle les artistes. Mais ce qu'il y a maintenant, c'est qu'on va à la FNAC et on peut acheter pour 100 euros une petite caméra, on peut acheter un baladeur, on peut acheter un iPod, etc. Et que donc, il y a une. Tout le monde peut.
N'oubliez pas avoir de parler dans le micro.
Pardon, et j'oublie pas de parler dans le micro, bien entendu.
C'est invention humaine.
À force d'hybrider. Voilà, donc c'est ça qui se passe, c'est que tout d'un coup, c'est vrai qu'on a un accès direct aux techniques, mais en même temps, s'il n'y a pas d'approfondissement de la chose, on peut se faire avoir par la technologie. C'est-à-dire on pense qu'on va devenir musicien en deux coups de cuillère à peau, chorégraphe en trois minutes, etc. Ça, c'est le gros danger, bien sûr.
À Volume 4 ans, vous voyez beaucoup de spectacles toute l'année. Quel regard vous avez sur l'utilisation de ces technologies numériques depuis maintenant plusieurs années en danse?
Alors, tout à l'heure, Norbert Corsino disait quelque chose d'intéressant qui resitue, je trouve, tout à fait les choses. Il parlait de la clé, il parlait du trousseau de clé, des choses très simples. Et effectivement, ne pas être fasciné par les nouvelles technologies, ça permet de ne pas être dominé. Donc, cette hybridation se fait parce que c'est une technologie qui se met au service de... Mais comme vous ouvrez votre frigidaire. Donc, je crois qu'il faut revenir effectivement à des données extrêmement simples, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, le degré de compétence des artistes qui utilisent ces nouvelles technologies est très important. Mais ce que je trouve surtout important, c'est qu'ils n'en oublient pas leur objet, le propos et le propos artistique. Et c'est ce que je vois dans le travail des artistes qui sont ici. C'est un outil de plus. Et encore une fois, c'est un outil du 21e siècle. Voilà. Donc l'hybridation, elle est de toute façon effectivement importante, parce que s'il n'y a pas hybridation entre ces nouvelles technologies, le propos artistique, et ce qui est magnifique dans l'exposition, pour parler de Seul avec Lou, c'est qu'est-ce qu'il y a dans Seul avec Lou? On revient à un des contes de l'enfance, donc il y a des choses qui nous parlent, il y a le loup qui intervient, il y a la danse, enfin qui intervient d'une manière complètement subliminale, mais enfin c'est en tout cas des choses qui s'appuient là-dessus, Norbert, pour raconter une histoire. Il y a surtout une poésie extraordinaire, des images magnifiques, une danseuse. Pour moi, la danse n'est pas du tout absente. Elle est présente différemment. Voilà. Donc je...
Mais à la différence de sensorlab.move, donc vous... on rappelle, le spectateur, le visiteur se déplace sur une zone déterminée. Ces déplacements sont captés par des capteurs. Et cela déclenche des...
Un laser.
Et ça déclenche des réponses, mais qui sont déjà pré-enregistrées, préfabriquées. Le même mouvement provoque toujours la même réponse sur l'écran.
Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que vous avez le laser détecte des positions et des vitesses. Mais il est évident que ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'il y ait la même réponse, ni que les réponses soient différentes, ou même qu'on puisse enregistrer des réponses différentes pour faire une étude, etc. Non, c'est que vous avez une relation qui se passe. C'est une. Si je devais utiliser un langage un peu prétentieux, je dirais que on essaie de trouver une interactivité relationnelle. Et que c'est plus. C'est plus dans le silence de ce qui se passe pas, ou de ce que vous avez, ou de la question que vous vous posez, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait,
d'accord,
qu'est-ce que j'ai entendu,
mais
plutôt que de dire, ouais. Vous voyez,
il n'y a pas de hasard, tout est déterminé quand même.
Non, enfin, c'est très difficile.
Oui et non.
C'est très difficile. Non, mais c'est difficile de dire des choses. Enfin, il y a une écriture, si vous voulez, il y a une écriture de programme. Bon, parler bon. Mais qui définit des zones, qui définit des zones d'interactivité, des zones, des moments d'interaction. Mais il est évident que à l'intérieur de ces zones, vous êtes libre. Vous êtes libre, et ce qui arrive suivant comme vous bougez, vous avez une vitesse d'apparition de la modification qui est plus grande, plus rapide. Donc ça peut jamais être pareil.
L'expérience qu'on fait de l'interactivité est très particulière à chaque fois, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Il est bon, c'est comme si vous même quand vous allumez une lampe avec un interrupteur, vous pouvez pas dire que c'est à chaque fois la même chose.
Et est-ce qu'elle est vraiment recherchée, cette Norbert Corsini, cette interactivité, est-ce qu'elle est vraiment recherchée par le spectateur? Vous avez vraiment de l'expérience là sur vos propositions?
Ça dépend complètement des gens. C'est-à-dire, ça dépend complètement des gens qui n'osent pas y aller, des gens qui y vont, des gens qui se régalent, des gens qui sont un peu réticents. C'est tout à fait intéressant de voir ça, mais je crois que le...
Suivant les lieux, il y a aussi des réactions différentes. Quand vous êtes dans un musée, par exemple, à Marseille, vous êtes dans la nouvelle salle de l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y a
Non, ça, je dirais pas ça. Non. Parce qu'on l'a donné dans des musées aussi à l'étranger. Non, je crois que les gens se... Non, vous savez, on a grosso modo tous le même cerveau. Donc, à part qu'à limite. Mais donc, les réactions sont... Heureusement, d'ailleurs, c'est sain, c'est salutaire. C'est-à-dire qu'on se trouve à Shanghai ou à Séoul ou à Marseille... Les réactions des gens sont... Alors, les attentes peuvent être différentes, ou bien... évidemment, il y a des cultures qui changent, mais je crois que le rapport direct, et c'est ce que nous cherchons, c'est-à-dire qu'il y a un accès direct au plaisir de participer à cet acte politique, quoi. Ça, c'est suivant la personne. Et... je crois que les... Ce qui apparaît, c'est qu'en fait, parfois dans certaines séquences la relation interactive est directe, comme avec une caméra, par exemple, la caméra qui bouge, qui change suivant son déplacement, mais parfois quand il y a une modification, par exemple du vent dans les feuilles ou bien des traces de pas dans l'eau, etc., c'est pas évident pour les gens.
Personne ne s'en aperçoit.
Il y a des gens qui s'en aperçoivent de suite, d'autres il faut un certain temps. Mais alors ce qu'il y a, et ce qui est extrêmement important, c'est que toujours dans les pièces que nous présentons, interactives ou pas d'ailleurs, il y a toujours ce qu'on appelle des médiateurs culturels. J'ai horreur de ce terme, mais bon, c'est assez horrible, mais c'est comme ça. Des gens qui expliquent, mais il faut trouver un terme. Alors là, c'est toujours pareil, il faut trouver des termes. Hein. Même installation, c'est pas
ça non plus. Il y a d'autres façons de faire de la médiation que d'expliquer.
Oui, mais bon, c'est le terme employé, mais pour aller vite. Mais, voilà.
Peut-être quelques mots sur, à moins que Thierry...
Sur les médiateurs. En fait, ils sont plus que médiateurs. Ils viennent vous chercher par la main pour vous expliquer comment ça marche. Je suis allé récemment voir l'installation qui est très spectaculaire et il faut absolument aller voir.
Il y avait eu un précédent au Mac d'ailleurs.
Oui, absolument. Oui, donc on a de nouveau les catalogues sortis à l'entrée du Mac. Je voulais dire par rapport à l'interactivité, moi je pense que la manière dont ils l'envisagent est assez différente de celle qu'on a pu voir. On a pu voir d'autres exemples d'interactivité récemment à Marseille, en particulier une très très belle réussite de Thierry Kunzel à la Compagnie. Vous avez dû la voir, c'était une immense vague qui se déroulait vers le spectateur, et lorsque le spectateur entrait dans la salle, il avait le pouvoir d'arrêter cette vague, cette déferlante, ou bien de la relancer.
De la ralentir, je crois.
De la ralentir, oui. Et puis un autre exemple, un artiste marseillais cette fois, Mathieu Briand, qui est maintenant travaille beaucoup à l'étranger, et qui était fasciné par, vous savez, ces clips. Enfin, c'est là, ce qui est intéressant aussi avec la technologie, c'est comment elle permet de franchir les frontières entre culture élitaire et culture populaire. Parce que, par exemple, on voit foultitude de clips publicitaires et musicaux, ces systèmes de prise de vue qui permettent de tourner autour d'une scène où tous les acteurs sont figés. Et c'est assez hallucinant. Et Mathieu a repris ça dans une pièce qui est un trampoline entouré de 70 caméras qui saisissent le spectateur qui saute au moment de son envol et qui le restitue. Donc on découvre le fonctionnement caché d'une technologie. Ça, c'est aussi assez... On draine de nouveaux publics aussi parce que l'émerveillement initial, on va quelque part le déchiffrer, on va quelque part le comprendre. Et ce travail que font les artistes par rapport à les technologies, je pense que c'est un travail essentiel.
Alors, on s'approche de la fin de cette émission. Le spectacle de Franck Deluise, Connecting Soul, va bientôt commencer. Et quelques gouttes se mettent à tomber, mais quand même, quelques mots sur sensonlab.com, le petit jingle d'avance du Festival de Marseille. Voilà, le jingle est passé. Donc, sensorlab.move. Quelle est l'allusion? Pourquoi cette allusion à Internet? Même moi, je me plante, je dis .com. Ouais. Alors, attendez, il faudrait qu'il... je crois que... Seb, si tu pouvais monter le micro orange. Merci. Donc, l'allusion à Internet, c'est de la création en réseau.
Non, oui, c'est vrai qu'on a déjà fait ça. Ça, c'était peut-être une référence à ce travail qu'on avait fait en réseau, mais pas du tout. Là, c'est .move, c'est move pour mouvement, en fait, voilà. C'est tout.
Alors, Sensorlab.move, c'est un spectacle laboratoire. C'est quoi, voilà. ça veut juste dire que c'est de l'impro ou ça veut dire plus que
non,
ça?
Non, pas du tout. Enfin, effectivement, même si l'improvisation est présente dans notre travail, ça veut dire que c'est un travail laboratoire. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout abouti encore. C'est une première étape de travail, de cette première équipe, de cette première confrontation entre la danse, le corps en mouvement, le musicien en live sur scène et cette technologie de traitement en temps réel de ces données. Voilà.
Et tout à l'heure, je parlais des différences de la proposition de Franck. Les démarches sont voisines, les technologies sont voisines. Franck Delouise, lui, reste sur la scène. Ce sont les danseurs qui sont en interactivité entre eux ou avec un dispositif, tout ça. Dans le cas de N plus N Corsino, c'est le spectateur qui est dans un rapport frontal. Vous, les spectateurs ne sont pas dans un rapport frontal. Hein,
non, on pourrait dire que même s'il y a une bifrontalité, moi je dirais qu'on est dans un dispositif, tout ce qu'il y a de plus classique. On convoque un public, ça démarre. Et il y a un déroulement chronologique qui est une forme de narration pour nous. Et même
qui est quoi une... C'est quoi le fil rouge?
Le fil rouge, c'est vraiment la danse et le corps. Et pour cette histoire-là en particulier, c'est plutôt la lumière, le fil rouge, et le révélateur photographique. Voilà, donc on est parti de l'idée d'une barre de néon, et puis on va travailler sur des profondeurs de noir, de gris, de nuances de gris. Et on fait plus référence à la photographie en noir et blanc. Et cette nouvelle technologie, en fait, nous permet plus de même on parle aussi du trait, de la ligne et du croquis. Et cette production scénographique par cet outil technologique propose au corps des issues et des états de corps très différents, en fait. Voilà. Et avec Jean-Marc, il y a aussi la notion de jeu qui est très importante.
On laisse passer le jingle. Pas un jingle, c'est une symphonie.
Très long.
La salle est ouverte.
Donc, deux mots pour...
Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, la musique est produite en direct. La modification de cette production est faite en direct par le mouvement. Si vous voulez, l'endroit de l'interactivité ici se fait dans l'interchangeabilité des fonctions. C'est-à-dire que la danse peut devenir musique, comme disait Franck tout à l'heure, et dans un domaine musical complètement différent que celui du hip-hop. C'est-à-dire que là, on est à l'âge des pierres, hein, on a beaucoup de technologies, tout ça, mais bon, c'est dans 20 ans qu'on mesurera vraiment les pas qui auront pu être franchis avec les prémices de tout ce qu'on manipule maintenant.
Vous la montrez, vous, la technologie sur scène, ou vous la cachez?
Non, elle n'est pas visible, elle n'est pas particulièrement dissimulée non plus, parce que si on parle du dispositif, Michel a une chemise, quand elle l'enlève, on voit les fils, parce que bon, il y a encore des fils. C'est pas une maladie honteuse, quoi. Il n'y a ni à cacher ni à montrer. On n'exhibe pas parce qu'il n'y a pas de nécessité d'exhiber, parce que c'est pas un spectacle sur Mad Max, c'est pas. Mais on peut pas ce qui est montré, on peut pas le cacher, quoi.
Mais ce qui montre également, enfin, ce qui est accepté et plutôt assumé, je dirais, cette prise de risque qu'on prend. Et c'est pour ça que c'est un laboratoire pour moi. C'est que on va peut-être être effectivement dans plus ou moins, ça va plus ou moins marcher comme on le souhaite, comme on l'a travaillé, dans l'optimisation du processus et du procédé à un moment donné, et que ça peut ne pas se passer exactement comme on l'a prévu, et même très loin. Et à ce moment-là, il faut pouvoir gérer, et c'est pour ça que l'improvisation est très importante, c'est pouvoir répondre à la situation. Et ça fait vraiment partie de notre travail. C'est ça qu'on défend et qu'on assume.
Le danger est permanent.
Non, mais un danger nécessaire pour ce que ça doit susciter de
Sensorlab point move, donc le 4 et 5 juillet à 20h, c'est ça, dans le petit studio du Ballet National.
20h et 20h30, toujours deux
20
fois.
20h et 20h30.
Parce que c'est une jauge limitée et qu'il faut...
Alors, un dernier mot, je crois, Gilles, avec David du collectif MS13.
Oui, tout à fait. Il est à côté de nous. Il nous a rejoints puisque c'est lui avec ses amis, ses camarades, je ne sais pas comment il va définir ça, qui ont réalisé la fresque graffée qui est installée depuis tout à l'heure sur la pelouse du parc Henri Fabre. Il va peut-être nous en parler un petit peu. C'est à la demande de Franck Delouise que vous avez bossé ?
Alors en collaboration avec Franck et le Festival de Marseille, on a décidé de faire une petite presse sur le sujet du spectacle de Franck. Donc on s'est inspiré de son univers, de tout ce qu'il fait passer lors de ses spectacles. Et là où ça se rejoint, c'est que le graffiti fait partie du hip-hop, au même titre que la danse et que le chant, comme le rap. Donc on s'est rejoint sur ce projet pour faire donner une vision qui est la nôtre du spectacle de Franck Deslouizes, avec bien sûr son accord et son approbation sur...
Son approbation aussi.
Ouais, tout à fait.
Alors tout à l'heure, on a eu Franck pendant une grosse demi-heure là, en interview, et c'est vrai qu'il nous a vraiment défini son travail sur les nouvelles technologies, et on se demandait au bout du compte comment le milieu hip-hop par exemple pouvait recevoir ce travail de recherche. Vous, comment vous vivez cette évolution de Franck Deslouizes?
Ben écoutez, l'évolution on l'a vu sur scène, c'est vrai, on a eu rarement l'opportunité de voir des spectacles aussi hybrides, tant dans le mouvement hip-hop que dans la danse, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a été très imprégné de son univers pour réaliser la fresque, et on s'est servi de tout ce qu'il nous a transmis, comme je disais, tout ce côté hip-hop qu'il a dans ses spectacles, et aussi de l'autre partie qui est créative et invention. Nous, il faut savoir que dans le domaine du graffiti, on affectionne les thèmes, tout ce qui est sur la robotique et ce genre de choses, les années 80, les robots, tout ce qui est un petit peu le futur. Donc c'était vraiment notre sujet de prédilection déjà à la base, et avec les idées de Franck en plus, je pense qu'on a fait quelque chose de cohérent et qui rejoint le spectacle et la pièce.
Et donc la fresque va rester en place là jusqu'à quand ?
Ben, là on la présente au public à l'aller et au retour du spectacle, et ensuite je pense qu'elle va être découpée et offerte à Franck et aux personnes à qui ça a plu.
Voilà. Merci David. C'était danse virtuelle Corps Limite, une troisième table ronde organisée en partenariat avec Marseille d'Hebdo et donc Gilles Roff. Merci Gilles de ta présence sur ce plateau. Et avec les forums de la FNAC, le Festival de Marseille, de toute façon, vous en aurez encore des échos sur la grenouille, puisque ça continue jusqu'à mi-juillet. Le spectacle va bientôt commencer. De plus en plus de gens se rapprochent de l'entrée. J'ai à vous dire que à la technique, il y avait Sébastien Gély et Djilali Amish, que je remercie beaucoup. Que à suivre, c'est la programmation musicale des 3-8. Bonne soirée à tous. Salut.